Quel est le point commun, ah ben voilà, entre un cultivateur, les prophètes de l'Ancien Testament et Job, à votre avis ? Ils ont tous une barbe, je sais pas. Sur la photo, apparemment. Est-ce que vous voyez un autre point commun ? Ils ont la foi. Ils ont la foi. Oui. Ça prend du temps pour voir des résultats. Exactement. Ils patientent. Ils patientent. Et c'est effectivement le point commun que Jacques leur trouve ce matin. Ce sont des modèles de patience dans l'épreuve. Alors, au tout début du chapitre, Jacques nous avait déjà parlé de l'épreuve. Il avait dit, au tout début de sa lettre même, mais du chapitre 1, dès le verset 2, « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force. Des hommes, des femmes, auxquels il ne manque rien. » Donc d'après Jacques, l'épreuve, les difficultés, non seulement pourraient être, mais même devraient être, une source de joie pour nous. Alors j'espère que vous... Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de sources de joie récemment, d'occasions de vous réjouir ou d'épreuves. Mais ce que Jacques est en train de nous dire, c'est qu'au travers de ces épreuves, au travers de ces difficultés, nous allons pouvoir apprendre quelque chose. L'endurance, la persévérance, la patience, la résistance. Tous ces mots, c'est des mots que vous trouvez dans diverses traductions de la Bible qui parlent de justement ce que l'épreuve va pouvoir produire. Et qu'au bout du compte, il y a quelque chose qui va se produire, qui a une énorme valeur aux yeux de Dieu et donc qui doit être très important pour nous. C'est la maturité spirituelle. Mais comment faire ? Parce que j'imagine que, comme moi, vous choisissez pas souvent vos épreuves ou vos difficultés, n'est-ce pas ? Elles vous tombent un peu dessus sans prévenir. Et si Jacques nous invite à nous en réjouir, il ne nous a pas encore beaucoup donné de pistes sur comment faire. On peut en trouver quelques-unes, mais quand même. Parce que vous le savez aussi comme moi, et vous l'avez probablement expérimenté, le fait de passer par une épreuve ne produit pas automatiquement la patience ou la persévérance. On est déjà tous passés par des moments difficiles. Et peut-être qu'on est passé par des moments de colère, d'amertume. Et au bout d'un moment, vous vous apercevez que vous êtes face à un choix. Le choix de rester dans cette colère et cette amertume et de nourrir votre aigreur, votre ressentiment. Et vous connaissez peut-être des gens comme ça. Et puis vous connaissez aussi d'autres personnes qui sont passées par des souffrances terribles, par des difficultés, par des épreuves qui nous dépassent et qui pourtant rayonnent de paix, de joie et de douceur. Alors comment faire ? Comment faire pour que cette épreuve puisse réellement se transformer en endurance, en patience et finalement en maturité spirituelle ? Job, ce matin, nous propose trois modèles. Trois modèles pour nous inspirer, trois modèles pour nous encourager. Le cultivateur, les prophètes et Job. Lisons ce texte. Frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard, jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience, soyez plein de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous répandez pas en plaintes les uns contre les autres, frères et sœurs, si vous ne voulez pas être condamnés. Voici que le juge se tient déjà devant la porte. Frères et sœurs, prenez comme modèle de patience persévérante dans la souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur. Parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Avant tout, frères et sœurs, ne faites pas de serment ni par le ciel, ni par la terre, ni par n'importe quoi d'autre. Que votre oui soit un vrai oui et votre non un vrai non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. Trois modèles de patience. Patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Prenez comme modèle de patience persévérant dans la souffrance les prophètes. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Et vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur. Le cultivateur, les prophètes et Job. Trois modèles de patience. Ça va ? Vous suivez ? Moi, je suis pas tellement à l'aise là. Quand je lis ce que je lis, j'ai envie de répondre à Jacques. Vraiment ? T'es sûr ? Eux, des modèles de patience ? Alors oui, autant le cultivateur, ça va. Les prophètes, c'est déjà une autre histoire. Mais alors Job ? Parce que quand il parle de modèle, Jacques va un petit peu plus loin que... Non mais vous savez, il y a des gens qui ont souffert beaucoup plus que vous. Donc vous pouvez quand même patienter. Alors, bien sûr... C'est intéressant de réfléchir à ça. C'est important de savoir quand on souffre, que quand on souffre, pardon, on n'est pas seul au monde. Mais là, Jacques, il utilise le mot modèle. Il fait référence à des récits, Job ou les prophètes, ou des comparaisons, le cultivateur, qui doivent nous inspirer. Est-ce que vous avez envie de ressembler aux prophètes ou à Job ? Est-ce que vous pouvez dire, comme Jacques, en pensant à l'histoire de Job, oh, « Mais oui, vous savez ce que le Seigneur a fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. » Je ne sais pas à quel point ces histoires de Job et des prophètes nous encouragent, ou si plutôt elles ne nous font pas peut-être un peu peur. Alors oui, autant le cultivateur, ça va. Les prophètes, c'est déjà une autre histoire. Mais alors Job ? Alors vous allez me dire, oui, mais Michael, tu exagères un peu là quand même. Hein. Des modèles, bien sûr, mais des modèles pas parce qu'on est appelé à vivre la même chose qu'eux. Des modèles parce que eux, bah, leur manière d'aborder la difficulté, leur réaction à la souffrance, voilà le modèle, voilà ce qui doit nous inspirer. Oui, bien sûr. Est-ce que Job et les prophètes, ce sont des hommes qui ont suivi le conseil de Jacques et ont trouvé dans leur épreuve une source de joie ? Est-ce que ce sont des hommes qui ont gardé le sourire en toutes circonstances ? Est-ce que ce sont des hommes qui ont témoigné de leur paix, de leur joie dans les difficultés ? Est-ce que ce sont des hommes dont la foi n'a pas été ébranlée et qui ont exprimé une patience et une confiance imperturbables ? Pas vraiment. Quand je pense à des grands prophètes comme Élie, ou Jérémie, ou quand je pense à Job, ils ont un point commun. Ils ont tous demandé à Dieu de mourir, parce que leur souffrance était insupportable. Et Jacques, il nous dit, c'est des modèles. Alors bien sûr, la vie des prophètes et de Job ne se résume pas à ces moments de dépression, ces moments de creux de vague, mais quand même. Là, il va falloir qu'on creuse un peu le texte un peu plus que ça, pour vraiment croire que c'est des modèles. Le cultivateur. Dans le passage précédent, et dimanche dernier, Serge a dû commenter ce texte-là, de la fin du chapitre 4 et du début du chapitre 5, Jacques dénonce avec vigueur l'injustice des riches, l'exploitation, le vol, les abus, les crimes que les riches commettent. Dans leur recherche du plaisir, du luxe, de richesse, ils ont fait tellement de choses détestables et condamnables. Alors non seulement Jacques dénonce ces actions, mais il leur dit « le temps du jugement arrive ». Le temps de la condamnation arrive. Et ça sera pour vous un temps de malheur, de lamentation et de pleurs. Vous avez eu l'impression que vous pouviez faire ce que vous vouliez, comme vous vouliez, qu'il n'y avait pas d'impunité, que vous étiez intouchable au-dessus de tout jugement, mais Dieu lui-même vient. Le Seigneur des armées célestes entend les injustices et il interviendra. Et à ce « vous les riches » du verset 1, vient en écho ce verset 4. Frères et sœurs, s'il y a quelques riches dans les destinataires de la lettre, il y a vraisemblablement une grande majorité qui va se reconnaître comme ceux qui subissent les injustices de ces riches et des puissants. Et à ces victimes, à ceux qui sont sous la main, l'emprise de ces dominateurs, Dieu ne demande pas de se réjouir de leur condamnation. Dieu ne demande pas de démarrer une révolution sociale. Dieu dit « c'est moi qui vais demander des comptes. C'est moi qui vais régler cette injustice. Alors patientez. » S'il annonce le malheur et appelle à la repentance ceux qui agissent de manière injuste, il encourage les victimes de ces injustices à la patience. Patientez jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Le temps de la venue du Seigneur, c'est le temps de la justice qui s'accomplit. D'un côté, un jour terrible et effrayant pour les injustes, mais un jour de soulagement et de délivrance pour ceux qui regardent à Dieu. Dans un pays plutôt sec, comme on en trouve au Proche-Orient, la pluie, c'est plutôt une excellente nouvelle. Et c'est ce que le cultivateur attend. Les premières pluies de la saison permettent à la terre d'être meuble, et donc on peut planter les graines. Et puis les dernières pluies assurent la croissance, la croissance jusqu'à la récolte. Mais qu'est-ce que peut faire le cultivateur pour hâter le temps de la récolte ? Une fois qu'il a fait son travail, il a préparé la terre, il a planté les graines, et ensuite il patiente. Ensuite, il attend. La période des récoltes va venir avec certitude, mais maintenant, c'est le temps où il n'y a rien à faire. Il ne peut pas accélérer la pousse des plants. Il ne peut pas faire qu'il y ait plus ou moins de soleil. Il ne peut pas faire que la pluie tant attendue arrive plus vite. Et dans l'épreuve, dans les injustices que je peux subir, bien souvent, il y a ce temps aussi où je dois accepter mon incapacité à agir sur la suite et à m'accrocher à l'espérance. Pourquoi est-ce que le cultivateur patiente ? Pourquoi est-ce qu'il n'abandonne pas sa terre ? Parce qu'il sait que la récolte va venir. Il s'appuie sur son espérance. Il compte sur ce qui va venir. Mais il passe par ce temps où il n'y a plus rien entre ses mains. Il faut juste attendre. Il faut juste patienter. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience. Soyez plein de courage, car la venue du Seigneur est proche. Alors, je ne vous cache pas que c'est quelque chose de difficile dans l'épreuve. Mais oui, parfois, il faut accepter ce temps de l'inaction. C'est difficile parce que j'aime bien savoir que je peux agir, que je peux changer quelque chose, que j'ai encore des cartes en main, que je peux influencer les circonstances. Mais parfois, je dois accepter que j'ai plus de cartes en main. Parfois, je dois accepter que j'ai plus rien à faire. Et que je dois juste accepter ce temps de l'inaction et m'en remettre à Dieu. Regarder à l'espérance que j'ai. La venue du Seigneur est proche. Parce que c'est lui qui interviendra. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui donne la vie. Patienter dans l'épreuve, c'est accepter ce temps de l'inaction et regarder à notre espérance. Les prophètes, ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, frères et sœurs, si vous ne voulez pas être condamnés. Voici que le juge se tient déjà devant la porte. Frères et sœurs, prenez comme modèle de patience persévérante dans la souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Le temps de la patience dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la souffrance, c'est évidemment quelque chose de difficile à traverser. Mais vous l'avez peut-être noté, vous aussi, que parfois dans ces temps difficiles, il y a des choses qui ressortent. Des comportements, des réactions qui ne sont pas toujours dignes d'un enfant de Dieu. Un peu comme si la difficulté ou la souffrance était la bonne excuse. Oui, je souffre, alors j'ai le droit, non ? J'ai le droit d'être odieux, de mal réagir, d'être désagréable, j'ai le droit d'être égoïste. Regarde ce que je traverse. J'ai le droit de faire des mauvais choix. Comme si ma souffrance me donnait des points de crédit pour faire le mal. Ou peut-être simplement je souffre, alors j'ai le droit d'attendre des choses des autres. Non, j'ai pas droit à un peu plus de compassion, à un peu plus d'égard, à un peu plus d'attention. Est-ce que j'ai pas droit à de l'aide, puisque je traverse cette épreuve ? Je ne sais pas quels étaient les problèmes auxquels les lecteurs de Jacques faisaient face. Est-ce que les uns ne comprenaient pas les difficultés que les autres affrontaient ? Est-ce qu'il y avait des attentes frustrées ? Des problèmes de commérage ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ce contexte de patience dans la souffrance, Jacques revient sur un thème qu'il a déjà abordé. Savoir tenir sa langue, chapitre 3. Ne pas se critiquer les uns les autres, chapitre 4. Et dans ce cas précis, ne pas se répandre en plainte. Parce que le juste juge se tient à la porte. Et si la venue de Jésus signifie la condamnation pour les riches et les puissants qui ont abusé, exploité, écrasé, si son retour signifie la délivrance de ceux qui s'attendent à lui, il sera juste et il ne tiendra pas le coupable pour innocent. Et Jacques nous donne, oui, un profond encouragement à tenir bon dans l'épreuve, mais aussi un avertissement. Et dans ce sens, l'exemple des prophètes est parlant. Alors, on ne connaît pas tout du vécu et des paroles des différents prophètes que Dieu a envoyés au cours de l'histoire du peuple d'Israël. Souvent, on s'attache aux histoires ou aux actes extraordinaires que Dieu leur a donné de faire. Oh, tel prophète avait fait ça, waouh ! Ou on s'attache peut-être aux paroles prophétiques et tellement précises qu'ils ont eues quand ils ont annoncé la venue de Jésus. Ou on s'arrête à des paroles plus mystérieuses, un peu apocalyptiques que certaines ont prononcées et qu'on cherche à comprendre. Mais si on essaye de prendre du recul, si on essaye de regarder la vue d'ensemble, on voit que Dieu, dans toute l'histoire d'Israël, a envoyé des tonnes et des tonnes de prophètes pour avertir son peuple de son éloignement et de sa perdition. On peut lire dans Jérémie 20 cette parole que Dieu a donnée à Jérémie pour le peuple. « Je vous ai envoyé, sans me lasser, tous mes serviteurs les prophètes, pour vous dire « Abandonnez votre conduite mauvaise, faites le bien, cessez de courir après d'autres dieux pour leur rendre un culte, et vous demeurerez dans le pays que je vous ai donné, à vous comme à vos ancêtres. » Mais vous n'avez pas prêté attention, et vous ne m'avez pas écouté. Pourtant, sans me lasser, je vous ai envoyé des prophètes. Cette fois, on va retrouver cette expression dans le livre de Jérémie. Où Dieu dit, mais je ne me lasse pas de vous envoyer des prophètes pour que vous compreniez, pour que vous écoutiez. Et si Dieu ne s'est pas lassé d'envoyer pendant des siècles et des siècles des prophètes, il va finalement demander la même chose à ses prophètes. ne vous lassez pas de faire ce que je vous demande. Parce que le problème et le drame qui se joue dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on a lu. Les hommes n'ont pas voulu écouter. Et la parole de Dieu n'a pas juste été ignorée, elle a été combattue. Parce que ces prophètes étaient les porte-paroles de Dieu, nombre d'entre eux ont été rejetés, battus, maltraités et parfois mis à mort. Pour beaucoup, ils sont passés par des épreuves, des difficultés et des souffrances. Jérémie, qui pour moi est le prophète qui caractérise le mieux ces difficultés, dans le chapitre 20, il parle à Dieu et il lui dit « J'en peux plus ». Mais j'en peux plus ? Parce que systématiquement, on se moque de moi, on m'insulte, on m'outrage à cause de ce que tu me demandes de faire. Et je veux arrêter. Je veux plus parler en ton nom. Je veux plus avertir mes compatriotes. On peut lire verset 8. « Chaque fois que je parle, c'est pour crier très haut. J'annonce la violence et la dévastation. À longueur de journée, ta parole éternelle m'attire des outrages et des insultes. Et lorsque je me dis « Je veux oublier sa parole, je ne parlerai plus en son nom. » Il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase, enfermé dans mes os. Je m'épuise à le contenir et n'y arrive pas. » Alors même si c'est dur, il va continuer de parler. Même si c'est dur, il va continuer de faire ce que Dieu lui demande, il va continuer son ministère de prophète. La vie de prophète a été pour beaucoup d'entre eux une vie de difficulté, d'épreuve, de rejet, de souffrance, de danger. Et la fidélité à Dieu, leur attachement à Dieu, leur obéissance à Dieu était la raison même de leur souffrance. Mais plutôt que de renoncer, ils sont restés fidèles. Alors oui, dans la souffrance, dans la difficulté, dans l'épreuve, je peux être tenté de mal me comporter. Je peux être tenté de critiquer les autres parce qu'ils ne comprennent rien, parce qu'ils ne m'aident pas. Mais comme les prophètes, je veux rester fidèle. Je veux faire ce que Dieu attend de moi, en toutes circonstances. Et l'exemple des prophètes est parlant non seulement parce qu'ils sont restés fidèles, non seulement parce qu'ils ont continué à faire ce que Dieu attendait d'eux, mais c'est parce qu'ils ont saisi une vérité bien plus profonde qui leur a permis de rester fidèles, c'est qu'ils ont compris que leur histoire s'inscrit dans une histoire bien plus grande, celle de Dieu. Dieu appelle son peuple à revenir. Dieu veut bénir et sauver. Et leur histoire s'inscrit dans cette histoire-là. Alors oui, à l'image de Dieu, j'ai envie de patienter dans l'épreuve. Je veux apprendre à patienter dans l'épreuve et ça veut dire rester fidèle. Et je peux m'accrocher aussi à cette vérité-là. C'est que ma propre vie s'inscrit aussi dans ce plan. Dans une histoire qui dépasse ma vie, dans une histoire qui dépasse ma souffrance. L'histoire de Dieu même. Job. Nous disons « Bienheureux ceux qui ont tenu bon ». Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. L'histoire de Job est une histoire qui nous dérange, non ? On a un homme là qui est attaché à Dieu, un homme fidèle qui aime Dieu, qui craint Dieu, un homme intègre qui veut agir dans tous les domaines de sa vie conformément à ce que Dieu attend de lui. Et il y a quelque chose de magnifique dans la vie de Job. C'est que l'attachement qu'il a pour Dieu réjouit Dieu. Dieu se réjouit de voir Job. Mais il y a un autre personnage dans cette histoire. Le diable, le menteur, l'accusateur, qui vient affirmer que si Job est attaché à Dieu, c'est à cause des bénédictions que Dieu accorde. Parce qu'on ne peut pas juste aimer Dieu pour Dieu. Alors quelque chose qu'on a du mal à comprendre se passe. Quelque chose pourtant qui se passe depuis le début de l'humanité et qui est toujours aussi dur à comprendre pour nous. Dieu permet à Satan d'agir. Et Satan commence son habitude et, conformément à sa nature, amène le mal, le chaos, la destruction, la souffrance. Sous la main de Satan, Job perd tout. Tous ses biens sont volés, détruits. Ses enfants meurent. Et lui souffre d'une maladie terrible et douloureuse. Il n'a plus rien. Il n'est plus rien. Il lui reste juste sa femme qui l'encourage à maudire Dieu avant de mourir. Il a quand même des amis. Des amis qui restent 7 jours et 7 nuits dans les pleurs et le silence, tellement la souffrance de Job est intense. Waouh, quels amis ! Qui parmi nous est prêt à rester 7 jours en silence auprès d'un ami qui souffre ? Juste pour apporter sa présence. Et au début, l'attitude de Job nous paraît exemplaire. Il dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. » Mais au bout de ces 7 jours, au bout de ces 7 jours, il parle à nouveau et il finit par maudire le jour de sa naissance. Il souhaite la mort. Et là s'enchaînent 3 cycles de discussions, de discours entre Job et ses amis. Et pour les amis de Job, le problème fondamental, c'est que, quelque part, Job a péché. Car Dieu ne peut pas permettre un malheur si grand à quelqu'un de juste. Et malgré toutes les protestations de Job, qui continue d'affirmer être juste, ses amis vont insister, même jusqu'à inventer des fautes qu'il n'a jamais commises, des choses imaginaires, parce que sinon la souffrance de Job n'a aucun sens. Et quand je lis tout ça, du chapitre 3 de Job au chapitre 37, de ces discussions entre Job et ses amis, je m'aperçois avec horreur que parfois je ressemble aux amis de Job. Je m'aperçois avec horreur à quel point j'ai besoin de trouver un sens et une raison et une explication à la souffrance. Parce que ses amis de Job ont désespérément besoin de trouver un sens à la souffrance de Job. Parce que quelque part, c'est un moyen de s'en protéger. De se dire que ce malheur ne va pas nous atteindre. Job, si tu vis cela, c'est que tu as mal agi. Parce que moi, du coup, si je ne fais pas ça, si j'agis bien, alors automatiquement, j'éviterai le malheur. J'éviterai la souffrance. Un peu comme moi, parfois, finalement. Quand je me dis que si cet ami est malade, c'est parce qu'il ou elle n'a pas une bonne hygiène de vie. Si ça se passe mal avec ses enfants, c'est parce qu'il ne les a pas éduqués correctement. S'il a des problèmes de couple, c'est parce qu'il n'a pas fait les bons choix. Alors oui, il y a bien souvent une part de vérité là-dedans. Mais l'histoire de Job nous rappelle qu'il n'y a pas que des relations de cause à effet dans la souffrance. Il y a aussi cette souffrance qui ne trouve pas d'explication. Cette souffrance incohérente. Cette souffrance qui n'a aucun sens. Et pour Job, cette souffrance qui se heurte au silence de Dieu. À force de chercher à tout prix une explication, un sens, ses amis font plus de mal que de bien à Job. Et au bout d'un moment, Job va leur dire « Mais vous me trahissez, vous n'êtes d'aucune utilité, d'aucun soutien. » Chapitre 6, verset 21. « C'est là ce que vous êtes pour moi en ce moment. En voyant mon malheur, vous êtes pris de peur. » Est-ce que moi aussi, des fois, en voyant le malheur, je ne suis pas pris de peur ? Et comme les amis de Job, je cherche désespérément une explication, un sens, au mieux pour me rassurer que je pourrais éviter cette souffrance, au pire pour me dire que bon, finalement, c'est une bonne chose parce que quelque chose de bon va en ressortir. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait une bonne raison à la souffrance. C'est ce que le dernier ami de Job va dire. S'il n'y a pas d'explication à trouver dans le passé de Job, il y en a probablement une dans l'avenir. Dieu permet ce malheur parce qu'il va faire quelque chose de merveilleux pour ça, avec ça. Mais rien. Rien de tout ce que va dire les amis de Job ne va l'apaiser. Lui, il continue de clamer son innocence. Il continue de faire face à cette souffrance si intense. Et il n'a même pas le début d'une explication pour comprendre ce qui se passe. C'est le silence de Dieu. Le silence du seul qui peut le soutenir et le relever. Chapitre 30, on peut lire « De mes cris, je t'implore !» Et tu ne réponds pas. « Je me tiens devant toi et tu ne fais rien d'autre que de me regarder. » Tu as changé. Tu t'es rendu cruel à mon égard. Avec la force de ta main, tu t'acharnes sur moi. Est-ce que vous entendez ce cri de Job? Est-ce que vous entendez ces doutes sur la bonté de Dieu? Et pourtant, malgré tout ça, c'est toujours vers Dieu qu'il ne se lasse pas de crier. Dans ses dernières paroles, il dit « Mais celui qui périt, ne tend-il pas la main? Celui qui est dans le malheur, ne crie-t-il pas? Ah, si j'avais quelqu'un qui veuille m'écouter. Voilà mon dernier mot, que le Dieu Tout-Puissant me donne sa réponse. » Puis, au bout d'un très long moment, la lumière arrive. Dieu parle. Dieu rappelle à Job que c'est lui, par sa sagesse, par sa puissance, qui a tout créé. C'est lui qui prend soin de toute sa création et qu'il y a tellement de choses dans la création qui parlent de sa gloire. Et il dit que ça à Job. Et il termine juste en demandant à Job si Job a quelque chose à critiquer, s'il a quelque chose à contester. Si lui qui voulait intenter un procès à Dieu pour cette souffrance qu'il a dit a encore quelque chose à dire. Et Job constate qu'il ne peut que se taire devant Dieu. Alors Dieu parle à nouveau et il lui montre à quel point deux de ses créatures, l'hippopotame et le crocodile, sont impressionnants, sont forts, sont puissants, des animaux qui ne redoutent rien. Des animaux auxquels s'attaquer à eux serait bien irresponsable. Job, dans ta plainte et tes accusations contre Dieu, il y a peut-être quelque chose à lire là entre les lignes. Alors Job s'humilie. J'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Alors Dieu demande à Job de prier pour ses amis, car Dieu est en colère contre eux. Ils ont mal parlé de lui, contrairement à Job. Il y aura un message entier à faire juste sur ça. M'en appelle-t-on. Dieu rétablit Job, il lui donne de nouveaux enfants, il le rétablit dans sa santé, et il lui donne deux fois plus de biens qu'il avait auparavant. Non pas parce que Job le méritait, mais pour une seule raison. Parce que c'est Dieu qui a toujours et qui aura toujours le dernier mot. C'est Dieu, dans sa bonté, dans son amour, dans sa générosité, dans sa grâce, qui aura toujours le dernier mot. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur. Parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Mais pour être honnête avec vous, je ne crois pas que l'exemple de Job se résume uniquement au fait que Jacques nous encourage à tenir bon, car à la fin, c'est forcément Dieu qui aura le dernier mot. À la fin, il rétablit, il restaure, il fait grâce, au-delà même de ce que nous imaginons. C'est vrai, c'est profondément vrai. Et c'est essentiel. Ne l'oublions jamais. Mais pour moi, il y a quelque chose de bien plus fort et de bien plus puissant dans l'histoire de Job. Au milieu de la détresse de Job, au milieu de ses cris et de son incompréhension, alors qu'il s'adresse, qu'il implore un Dieu silencieux durant 40 chapitres. Et si vous avez lu le livre de Job, c'est interminable. Probablement comme cette souffrance était interminable pour Job. Mais tout à coup, au chapitre 40, Dieu parle. Et Dieu ne lui donne aucune explication à sa souffrance. Il ne lui donne même aucune parole d'encouragement et de soutien. C'est ce qu'on aurait tous attendu, non ? Que Dieu lui dise « Mais t'inquiète pas, Job, tout va bien se passer. Mais Job, tu sais, je suis là, tout va bien se finir. » Dieu lui dit en substance « Toi, Job, tu veux me demander des comptes ? Mais tu sais qui je suis. » Et Job, qui passe par des souffrances inimaginables, s'humilie et s'apaise. Dans tous les récits de ce qu'il disait jusqu'à présent, il y avait des cris, il y avait des pleurs, il y avait de l'angoisse. Et là, tout à coup, il ne parle plus de douleur, il ne parle plus de honte ou d'injustice. Il parle de choses merveilleuses qu'il ne connaissait pas. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qui se passe là. Ce n'est pas la disparition de la souffrance ou la fin de l'épreuve qui apaise Job. C'est juste la présence de Dieu. Et quand nous passons par l'épreuve, est-ce qu'on n'est pas tellement convaincu que ce qui est important, c'est la fin de tout ce qui nous fait souffrir ? Est-ce qu'on n'est pas convaincu que ce qui est important, c'est qu'on comprenne, qu'on trouve un sens à nos difficultés ? Et ce jour arrivera. Ce temps arrivera avec certitude. Mais l'histoire de Job nous montre que la présence de Dieu transcende tout cela. Que la paix est possible au milieu des pires souffrances, alors que rien ne fait sens. En quoi Job est un modèle, alors, puisque Jacques le cite ? Je crois qu'il est un modèle dans le sens où il n'a jamais cessé de crier à Dieu. Il est un modèle dans le sens où il s'est battu avec Dieu et il ne s'est pas résigné. Il est un modèle dans le sens que même s'il ne comprenait pas, c'est à Dieu qu'il s'est attendu jusqu'au bout. C'est sur sa justice qu'il a compté. Même s'il était dans cette tension entre accuser Dieu de ses malheurs, et pourtant c'est quand même vers lui qu'il s'est attendu. Jusqu'au bout. Patienter dans l'épreuve, c'est s'attendre à Dieu, même quand plus rien ne fait sens. Je voudrais terminer simplement par rappeler ce qu'on a pu dire. Je veux apprendre à patienter dans l'épreuve. Et patienter dans l'épreuve, c'est l'exemple du cultivateur. Accepter qu'il y a un temps où c'est l'inaction. Il y a un temps où je n'ai plus de cartes entre les mains. Patienter dans l'épreuve, c'est comme les prophètes, rester fidèle. Rester accroché à Dieu et à ce que Dieu attend de moi. Patienter dans l'épreuve, c'est comme Job, m'attendre à lui. M'attendre à Dieu, même quand plus rien ne fait sens. Alors effectivement, Jacques nous donne trois vrais modèles. Des modèles pertinents, des modèles inspirants sur comment réagir, sur quel choix faire dans l'épreuve. Mais derrière ces récits, ces exemples, ces modèles, je redécouvre aussi des choses. Des choses sur Dieu qui aident le cultivateur à patienter. Des choses sur Dieu qui aident les prophètes à patienter. Des choses sur Dieu qui aident Job à persévérer. Je veux patienter dans l'épreuve et je peux accepter ce temps de l'inaction parce que j'ai une espérance. Et merci Seigneur pour cette espérance. ta venue est proche. C'est toi qui apportes le salut, la justice et la délivrance. Le jour du Seigneur est proche. Le jour où ta victoire que tu as acquise par la croix sur le mal, sur la maladie, sur toutes les maladies, sur la souffrance, ce jour-là, cette victoire sera pleinement réalisée et ce jour arrive. Je veux patienter et rester fidèle à Dieu. Faire ce que tu attends de moi, Seigneur. Parce que là, je vois ta grâce aussi. Comme pour les prophètes, ma vie s'inscrit dans une histoire qui me dépasse, qui dépasse la souffrance, ma souffrance. Une histoire où c'est toi le héros. Une histoire qui parle de ton amour, de ta grandeur, de ta gloire. Tant de choses qui m'émerveillent et me dépassent. Je veux patienter dans l'épreuve et m'attendre à toi, même quand plus rien ne fait sens. Parce que comme pour Job, c'est toi, Seigneur, qui aura le dernier mot. C'est ton amour et ta grâce qui auront le dernier mot. Et je veux m'attendre à toi, parce qu'il n'y a que toi, et toi seul qui, par ta seule présence, peut m'apporter la joie véritable, la paix profonde, même au milieu des pires épreuves. J'aimerais juste vous inviter à un temps de silence. Si vous passez par l'épreuve, la difficulté, la souffrance, un temps où il faut accepter ce temps de l'inaction, un temps où il faut se poser la question de la fidélité, de ce que Dieu attend de vous. Un temps où vous avez besoin d'être encouragé à crier à Dieu. Et si vous passez peut-être pas par ce temps d'épreuve, je vous invite simplement à vous émerveiller. À vous émerveiller de l'espérance que nous avons en Christ. À vous émerveiller de la grâce que Dieu nous fait. Que notre vie s'inscrit dans une histoire bien plus grande, bien plus glorieuse. De vous émerveiller que la présence seule de Dieu peut nous combler d'une manière que nous n'imaginons même pas. Oui, Seigneur, nous sommes émerveillés, émerveillés de qui tu es, de ce que tu es capable de faire. Émerveillés que ta seule présence peut apaiser toute situation, peut combler tout cœur, dépasse toute souffrance. Seigneur, nous avançons sur ce chemin et traversons ces épreuves aussi avec humilité, en reconnaissant notre besoin de toi. Oui, cette patience est difficile. Aide-nous. Aide-nous à regarder à toi et à accepter que parfois il n'y a plus rien à faire. Aide-nous à rester fidèles, quoi qu'il arrive. Aide-nous à nous attendre à toi en toutes circonstances, car toi seul peux nous combler. Seigneur, continue de remplir nos vies. Continue de nous aider à regarder à toi en toutes circonstances. Que nos vies, que ce soit au travers des bénédictions que tu nous accordes, que ce soit au travers des épreuves que nous traversons, que nos vies racontent ta gloire. Amen.